France Culture. Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Quand j'ai posé le pied à terre au port de Haïfa, je me suis senti à la maison. Je ne sais pas l'expliquer.
C'est un choix, bien entendu, idéologique. Ça n'a pas été un truc facile, c'est pas évident de passer dans une espèce de désert hostile avec des bonhommes qui aimeraient bien te culbuter.
Je ne suis pas venue en Israël dans un esprit sioniste, tous les juifs doivent rentrer en Israël, etc. C'est vraiment que je me sentais vraiment plus en sécurité à Paris.
Si on pense que le judaïsme a été créé par Dieu, alors c'est une religion. Mais si on dit que le judaïsme a été créé par les hommes, alors c'est une culture.
Une quarantaine de chefs d'État se rendront la semaine prochaine en Israël pour le 5e Forum mondial de la Shoah. Parmi eux, Emmanuel Macron assistera à la cérémonie commémorant le 75e anniversaire de la libération du camp nazi d'Auschwitz. Et à l'occasion de son passage à Jérusalem, le président prévoit de rencontrer la communauté franco-israélienne. L'an dernier, un peu plus de 2000 Français ont choisi de faire leur alia, de venir s'installer en Israël. C'est nettement moins qu'il y a quelques années. 8000 Français étaient ainsi partis en 2015, poussés notamment par la crainte de nouveaux actes antisémites. Selon les statistiques de l'Agence juive, l'organisme gouvernemental chargé de l'immigration, près de 121 000 Français juifs sont partis vivre en Israël depuis la création de l'État en 1948. Tous n'ont pas eu la même motivation au départ, ni les mêmes convictions. Tous n'ont pas la même relation avec leur pays d'origine et leur pays d'adoption. La France, Israël et moi, c'est un reportage signé Frédéric Mettezo. Invité de ce grand reportage, Charles Anderlin, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été le correspondant de France 2 au Proche-Orient pendant 34 ans et votre dernier livre vient de paraître, Les Juifs de France entre République et Sionisme, aux éditions du Seuil. Vous vivez en Israël depuis plus d'un demi-siècle, Charles Anderlin. Vous devriez donc avoir beaucoup à nous dire après avoir écouté le reportage de Frédéric Mettezo, notre correspondant à Jérusalem. Frédéric, environ 100 000 Français vivent actuellement en Israël et vous nous proposez 4 portraits.
Oui, Aurélie, bonsoir à tous. 4 portraits qui témoignent de la diversité des Français installés en Israël. Ceux que j'ai rencontrés ont 95, 72, 56 et 24 ans. Ils représentent 4 générations de Juifs qui ont choisi Israël. Ils vivent à Jérusalem, dans un kibboutz du nord de la Galilée, dans une colonie en Cisjordanie et à Tel Aviv. Et nous allons les entendre chacun raconter son histoire.
Et la première rencontre, vous l'avez faite à Jérusalem.
Le quartier Rehavia, à l'ouest de Jérusalem. On est à mi-chemin entre la vieille ville et la Knesset, le parlement israélien. C'est un quartier résidentiel, assez calme, assez vert. Traditionnellement, c'est le quartier des intellectuels, des universitaires et des artistes. L'écrivain Amos Oz a écrit de belles pages à propos de Rehavia. Et c'est là que vit Lucien Lazare. Il est né à Strasbourg, il a été résistant, professeur d'histoire-géographie, journaliste, il a dirigé le lycée René Cassin de Jérusalem. Et la première fois qu'il est venu en Israël, c'était il y a 71 ans.
Comment allez-vous ?
Dieu merci, ça va. La première fois que nous sommes venus en Israël, c'était en 1949, à peine un an après la proclamation de l'indépendance d'Israël. On a consacré les vacances d'été à ce qui fut notre voyage de noces, c'est-à-dire un voyage en Israël. On a fait le déplacement, non pas par air, parce qu'on n'avait pas de quoi se payer un voyage aérien, mais par un bateau qui nous faisait embarquer à Marseille. Et c'était pas du tout un pays très visité par les touristes à l'époque. On a voyagé par autostop, ce qui était d'ailleurs très, très, très répandu à l'époque en Israël. Et on a fait donc le voyage aller-retour de Marseille à Marseille, en séjournant un mois entier en Israël.
Qu'est-ce que ça représente pour vous, Français juifs, cet État d'Israël ?
Ça représentait quelque chose qui apportait un bouleversement, une métamorphose, je pourrais presque dire, dans l'histoire. Mais quand j'ai posé le pied à terre, au port de Haïfa, j'ai ressenti quelque chose que je n'ai pas tout de suite formulé. En fait, je me suis senti curieusement à la maison. Je ne sais pas l'expliquer. Je ne l'explique pas encore maintenant. Ça arrive rarement dans une vie, mais ça m'est arrivé à ce moment-là.
Et une vingtaine d'années plus tard, vous décidez, avec votre épouse, de venir vivre ici. Ce choix, il est pris dès 1949 ou c'est un cheminement qui est plus long ?
C'est un choix qui s'est produit en 1949. Rationnellement, ça ne supporte pas l'explication. Et d'autant plus que Jeannine n'a pas ressenti ce que j'ai ressenti. Mais elle éprouvait néanmoins une attraction pour un pays et une société qui avaient un programme en ce qui concerne son avenir dans le genre humain. Elle préférait choisir une aventure sociale et familiale qui constitue un projet nouveau, ancré dans l'antiquité du peuple auquel elle se sentait appartenir. Et c'est ce qui, je crois, a été notre essentielle motivation.
Est-ce que ça veut dire que la France, l'Europe, n'était pas ou n'était plus votre maison ?
Je ne me suis pas du tout senti chassé d'Europe. Je n'ai pas quitté l'Europe. Je suis allé en Israël. Encore aujourd'hui, j'éprouve une très profonde satisfaction d'avoir la double nationalité, d'être français en France et israélien en Israël. Le fait d'avoir deux patries, une patrie d'origine et une patrie d'adoption, c'est pour moi un privilège.
Patrie d'adoption parce que vous avez adhéré au projet politique d'Israël, qui à l'époque est un projet sioniste de gauche, mais aussi en tant que juif pratiquant.
Oui, c'est l'un et l'autre, mais il s'agit de deux démarches étrangères l'une à l'autre. La combinaison de la politique et de la religion sont pour moi quelque chose de contraire à la nature humaine. Je suis non seulement républicain, mais je considère que l'école idéale, c'est l'école laïque française. Or, moi, je me soumets à la discipline religieuse librement qu'exige la loi orthodoxe.
Ce pays que vous avez choisi, Israël, il a beaucoup changé ?
Oui, il traverse une crise. Israël est considéré aujourd'hui comme un pays comme les autres, par le monde. Il constitue un pôle d'attraction pour les touristes, mais un pôle d'attraction comme, par exemple, l'Italie est pour les Français aussi un pôle d'attraction, l'Espagne également, pourquoi pas Israël. Et ça n'est plus un pays qui s'identifie par un projet social et humanitaire d'un caractère particulier, qui n'est pas identique à celui des autres projets à travers le monde. À mon avis, l'avenir d'Israël est conditionné par un retour à une identité dictée par un projet social et humanitaire du modèle qui était celui que j'ai connu quand je suis arrivé ici.
Je voudrais qu'on parle des relations entre vos deux patries. D'abord, c'est la lune de miel entre la France et Israël. Hein. La France aide Israël à acquérir l'arme atomique. Et puis, en 1967, c'est la guerre des six jours. Israël écrase les pays arabes. De Gaulle décrète un embargo sur les armes françaises à destination d'Israël. Et lors d'une conférence de presse, il a ces mots célèbres.
Et certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur, n'en viennent, une fois qu'ils seraient rassemblés, dans le site de son ancienne grandeur, n'en vienne à changer en ambition ardente et conquérante les souhaits très émouvants qu'il formait depuis 19 siècles, l'an prochain à Jérusalem.
Alors, Lucien Lazare, ces mots du général de Gaulle.
Quand ils ont été prononcés, je les ai saisis comme la majorité des juifs en France ont considéré cette formule du général de Gaulle comme un tournant dans la politique française à l'égard d'Israël. Et je me suis aperçu que cette réaction, qui a été également la mienne, aux paroles de Gaulle avait un caractère assez obsessionnel et n'était pas entièrement motivé, de loin pas.
Avec le recul, ces mots du général de Gaulle, comment vous les décryptez ?
Moi, je les décrypte comme une réaction française tout à fait légitime qui exprime le sentiment de la plupart des Français, ainsi d'ailleurs que d'autres nations à travers le monde, vis-à-vis d'Israël. Et étant donné ce que Israël représente comme la renaissance d'un pays de l'époque biblique, je crois qu'il est légitime d'attendre d'Israël une certaine attitude de fraternité avec le reste du monde. Et cette fraternité a des lois et des exigences qui sont assez représentées dans le propos du général de Gaulle.
C'est une forme de mise en garde à Israël ?
Aussi. À l'heure actuelle, Israël, en refusant la revendication nationale des Palestiniens, a quelques aspects des pays colonisateurs d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Et il n'est pas du tout illégitime, à mon avis, d'attendre d'Israël qu'il reconnaisse le droit à un pays et à une nationalité envers les Palestiniens.
Dans 300 mètres, restez à gauche à l'embranchement.
Lucien Lazare évoquait tout à l'heure un projet de société israélien, un programme. Et c'est vrai que dans les années 50 et 60, Israël était vraiment un pays socialiste. Les kibboutz sont ces lieux de vie communautaire et collectif typiquement israéliens, comme Yerriam, tout au nord d'Israël, à 8 km de la frontière avec le Liban. Donc là, on se dirige vers ce qu'était le cœur du kibboutz.
Oui, hein. Oui, ça c'est la salle à manger, ce qui était la salle à manger, qui aujourd'hui n'est plus tellement utilisée.
C'est ça, parce que originellement, tous les gens se retrouvaient ici dans cette grande salle.
Oui, toute la communauté était ensemble. Tout, c'était les soirées, c'était... On avait la
Yerriam a été fondé en 1947, l'année de naissance de notre deuxième témoin, Uri Weber. Il est sociologue de formation, mais il a été paysan et ouvrier au kibboutz avant de travailler au conseil régional. Et on le retrouve donc chez lui au kibboutz, dans son pavillon de type lotissement, noyé sous les arbres et les fleurs.
Je suis né en Pologne, mais à l'âge de 1 an, mes parents ont émigré vers la France, donc j'ai grandi en France jusqu'à l'âge de 19 ans. C'est la France qui a représenté mon pays maternel. Et après le bac, je suis venu en Israël. Déjà, à Paris, on faisait partie d'un mouvement de jeunesse. Et c'est dans le cadre de ce mouvement de jeunesse que, petit à petit, on s'est organisé tout un groupe pour venir en Israël au kibboutz. Pour nous, le kibboutz, c'était la société socialiste. C'était à l'époque où encore le socialisme semblait avoir un avenir important. Disons qu'au niveau idéologique, on était bien de gauche. C'était l'économie planifiée, c'était les centrales syndicales qui tenaient en main une grande partie de l'activité économique. Tout ça, c'était une société coopérative à très haut niveau.
Vous arrivez en 66, vous faites l'armée dans la foule et c'est cela ?
Je suis rentré à l'armée 6 mois après être arrivé en Israël. 1 an après, juin 67, c'était la guerre des 6 jours.
Pour un jeune homme plutôt anticolonialiste, porter l'uniforme, faire la guerre, ça vous a posé des questions morales ou pas du tout ?
Non, c'est pas aucun rapport avec l'armée israélienne et l'armée française de la guerre d'Algérie telle que nous, on l'a connue et on a grandi avec cette histoire-là. Non, l'armée en Israël, c'est une armée très populaire avec une ambiance populaire et c'est pas du tout un sentiment d'armée de colonisation, etc.
Est-ce que vous venez aussi dans le pays qui est là pour accueillir les Juifs une vingtaine d'années après la Shoah?
Absolument. C'était aussi ce sentiment de donner une certaine solution à la problématique juive. La problématique juive, ce n'est pas l'antisémitisme, parce que très souvent on présente le sionisme comme une solution à l'antisémitisme, mais ce n'était pas cela. Déjà à l'époque, dans les années 60, il y avait très peu d'antisémitisme. C'est un judaïsme pas du tout religieux. Pas du tout. Le judaïsme, c'est simple. C'est-à-dire que si on pense que le judaïsme a été créé par Dieu, alors c'est une religion. Mais si on dit que le judaïsme a été créé par les hommes, alors c'est une culture. Et c'est très différent. Pour nous, le judaïsme, c'est notre culture, c'est nos racines. Et c'est la base qui nous permet de nous développer une appartenance.
Et développer, vivre et assumer cette culture, c'était pas possible dans la France des années 60?
Non, c'était pas possible à l'époque, c'était pas possible non plus aujourd'hui. C'est-à-dire que...
On peut pas être français et juif?
On peut l'être sur une, deux, trois générations, mais ça se perd. Moi, je vois ça chez mes amis. Eux, ils sont encore très juifs dans leur culture, dans leur mode de vie, etc., etc. Les enfants, ils savent qu'ils viennent de parents juifs, et les petits-enfants, ils savent déjà même plus de quoi il s'agit. C'est-à-dire que ça disparaît, ça va disparaître.
Mais qu'est-ce qui empêche, en France, d'assumer et de vivre cet héritage?
Rien n'empêche, mais il y a une sorte d'engrenage, engrenage culturel, engrenage quotidien, il n'y a pas les conditions, il y a des tas d'influences, il y a une grande influence cosmopolite en France. D'ailleurs, même la culture française se perd, dans une certaine mesure. La société française est tellement imprégnée de cette idéologie libérale humaniste qu'elle dérive. Elle ne sait plus comment gérer les problèmes qui se posent. Ni celui de la laïcité, ni celui des immigrés, ni celui des droits de l'homme. Les gens réagissent en France avec un sentiment qu'ils n'arrivent plus à ce qu'on appelle ici, ce qu'on appelle une conception. Les gens perdent leurs racines, perdent leurs particularités, etc. Et les jeunes le recherchent. On voit le malaise que crée ce sentiment qu'en fin de compte, tout le monde, c'est la même chose. Tout le monde, c'est une culture assez universelle, une culture complètement laminée, à dominance américaine, de tout partout. Le modèle républicain, il parlait surtout des droits du citoyen. Alors, en tant que droit du citoyen, ça marche.
Tout pour le citoyen, rien pour la communauté.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la communauté, ça, c'est pas important pour... l'État républicain. Alors le judaïsme encore plus, parce qu'il y a une petite minorité, donc il n'a pas les moyens de développer les caractéristiques propres. Alors qu'ici, au contraire, ici, c'est toute l'ambiance, elle est imprégnée de judaïsme. C'est-à-dire au niveau de la culture, les fêtes, il y a toutes les cérémonies de la naissance au mariage, par la bar mitzvah, etc. Que ça soit par le folklore, que ce soit la littérature, le cinéma, tout est imprégné de judaïsme. Et c'est un judaïsme qui se renouvelle constamment. Ceux pour qui le judaïsme est important, le judaïsme en tant que culture, en tant que patrimoine est important, c'est en Israël. En France, ils peuvent vivre en tant que Français, c'est très bien, mais ils doivent être conscients que c'est une question de une, deux, trois générations et c'est fini. C'est-à-dire que le judaïsme de France... encore quelques générations disparaîtra, où il sera très marginal, de plus en plus marginal. Ce sera un souvenir, mais ceux qui veulent assumer leur judaïsme, c'est en Israël.
Vous n'imaginez pas une seconde revenir vivre durablement en France?
Écoutez, j'ai passé l'âge, mais non, j'ai mes enfants ici, mes petits-enfants ici, mes amis ici, j'ai... toute la société. C'est ici que je suis chez moi. À Paris, j'aime beaucoup venir pour une, deux, trois semaines chaque année pour revoir les amis que j'ai là-bas, mon frère qui est là-bas. Mais c'est pas un endroit où je voudrais vivre. Je suis les actualités françaises, les débats français, etc. Mais bon, c'est plus en tant que spectateur qu'en tant que participant. Je m'y sens très attaché.
Retour à Jérusalem, la ville sainte, en plein centre-ville, sur la grande rue Jaffa, avec ses commerces et son tramway. Notre troisième interlocuteur est né en Tunisie, mais lui aussi a grandi à Paris, Bernard Zanzouri. Il a 56 ans, il est arrivé en Israël en 1983, il est éducateur pour jeunes. Il porte une kippa crochetée de couleurs, symbole des sionistes religieux, et il habite à Ofra, en Cisjordanie, dans une colonie près de Ramallah. Nous le retrouvons donc à Jérusalem, dans les locaux de l'association Kalita, qui accueille les immigrants francophones.
Je m'appelle Bernard Zanzouri, j'ai fait mes études dans les lycées de Paris. Et aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle un colon ici, même dans les actualités internationales. C'est un choix qui n'est pas anodin du tout. On est en 1983. Tout de suite après le bac, j'étais avec ma copine d'époque, qui est devenue ensuite ma femme. Et elle avait très très envie de monter en Israël. Moi, j'étais dans les mouvements de jeunesse, sioniste aussi, mais j'étais pas vraiment très chaud. Et j'arrive effectivement, on est un peu après la guerre du Liban. Il y a encore des soldats qui sont au Liban, des soldats israéliens, mais la guerre elle-même est terminée. On gère un peu l'après-guerre. Donc c'est une époque aussi où Israël est un peu ébranlé par tout ça, le bourbier un peu libanais, ça a laissé des traces, il y a eu des jeunes qui sont morts là-bas. Et finalement, on arrive dans un contexte qui est pas terrible, il y a 400% d'inflation à l'époque, et Israël, si on veut le décrire en un mot, en une touche, a à peu près 25 ans de retard sur la France dans tous les domaines à l'époque. C'est-à-dire concrètement, vous allez au supermarché, vous avez trois surgelés, des haricots verts, des maïs, et alors qu'en France, il y avait déjà les premiers picards qui pointaient le nez. Mais, quand je parle de 400% d'inflation, ça veut dire des fois, vous entendez à la radio, courez vite au supermarché, parce que dans 2 heures, il n'y a plus rien. Demain, ça monte de 30%, donc personne n'a envie d'acheter au nouveau prix. Et là, toi, tu arrives en retard et tu as des supermarchés vides. Voilà, concrètement, c'est un peu le pays en voie de développement à l'époque.
Vous restez. Qu'est-ce qui fait que vous, le Parisien, je dirais même le Parigo, vous restez ici. Alors évidemment, vous êtes juif, mais ça ne suffit pas.
Non, ça ne suffit pas pour rester, hein, et ça ne suffit même pas pour monter. Il y a des juifs partout dans le monde entier. La grande majeure partie ne vient pas en Israël. Je suis quand même venu, malgré les réticences, je suis quand même venu avec mon caractère, c'est-à-dire une envie quand même d'aller jusqu'au bout et de faire bien. C'est-à-dire je comptais pas plier bagage au bout de 2 mois. J'ai dit, allez, si j'ai pris la décision d'y aller, j'y vais à fond.
Vous êtes un colon, c'est un choix ?
C'est un choix, bien entendu, idéologique. Ça non plus, ça n'a pas été un truc facile. C'est pas évident de passer dans une espèce de désert hostile avec des bonhommes qui aimeraient bien te culbuter quelque part. Mais pour moi, par contre, au niveau idéologique, à partir du moment où tu crois un truc, c'était oui une évidence de vivre là où tu penses qu'il faut habiter. Moi, je suis convaincu, un peu comme Trump et ses copains, que la façon de trancher de la communauté internationale, elle est ambiguë, elle n'est pas obligatoirement basée sur les faits. On peut tourner des fois les phrases comme on veut, mais non, moi je suis un bonhomme religieux. Pour moi, oui, le retour d'Israël, c'est un miracle qui correspond à une vision des prophètes, etc. Ça m'empêche pas d'être ultra pragmatique dans plein de domaines, mais dans ce domaine-là, c'est évident que c'était la démarche. Et ça a été d'autant moins facile que même si je venais d'une famille, oui, religieuse, le côté on réalise ce genre d'idée, on le fait, c'était plus timide quand même. Oh, on aime beaucoup Israël, on aime beaucoup les choses, mais faut se calmer aussi. Toute ma famille restait en France, et donc pour eux, c'était, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fais là? Je pense qu'un type qui dit « j'ai rompu avec la France et pour X raison, la France a changé, elle n'est plus ce que j'étais, puis j'ai fait mon choix, je suis israélien, tatati, tatata », je pense que quelque part il se ment. La France, c'est un pays qui a énormément d'influence sur quelqu'un. Moi, j'ai vu Notre-Dame brûler et je suis resté 2 heures à regarder Notre-Dame. Je suis juif, hein, je n'avais pas prié à Notre-Dame, mais c'est ma Notre-Dame quelque part. Et Israël, c'est un peu comme une dispute entre ton père et ta mère. Et on dit, alors, choisis ton camp, mais je peux pas choisir mon camp, quoi. C'est-à-dire, des fois, oui, j'en veux à la France de sa politique, mais d'un autre côté, la France a toujours eu une politique qui t'empêche même de bien lui en vouloir. La France s'est toujours déclarée jusqu'à aujourd'hui comme ami d'Israël. Je suis un ami d'Israël, mais je ne suis pas d'accord avec Israël sur ça, ça et ça. Et en tant qu'ami, je vous dis, rendez Jérusalem. Et ça, ça t'empêche même de bien te lâcher ou de t'énerver parce que finalement, à aucun moment, la France ne dit, non, je suis un ennemi d'Israël. Donc, oui, effectivement, des fois, on est tiraillé entre les deux. Très souvent, on va se sentir quand même plus israélien quelque part, mais la part française, elle est encore assez forte pour te dire, j'espère qu'ils vont changer ou qu'on va redevenir bien copains, comme ça on peut aimer papa et maman de même façon.
Qu'est-ce qu'il y a de français en vous ?
Nous, après 35 ans en Israël, je suis capable de manger un truc dans la rue et de dire, ouais, là, c'est israélos, ils comprennent rien à la nourriture, quoi. C'est pas possible. Et après, de regretter ça en disant, d'abord, c'est pas vrai, ils ont fait pas mal d'efforts et de progrès, etc. Mais il y a un truc qui reste quand même très ancré, très français. C'est, mais quelle bande de barbares ! Les mecs, un peu de culture. Et en fait, ces réflexes, c'est des réflexes purement français. Et je suis prêt à changer Israël même pour ça. Alors moi, ma vie est complètement ici aujourd'hui, mais je sais que mes racines étaient là-bas quand même si j'ai des racines très juives, j'ai des racines très très françaises, et j'y tiens, et je ne veux pas y lâcher.
Dernière étape, Tel Aviv, la grande ville bouillonnante, festive, branchée, cosmopolite au bord de la Méditerranée. C'est jour de pluie, hein, c'est la saison des tempêtes en ce moment en Israël. Alors on va éviter les belles plages ou les terrasses. On va se mettre à l'abri dans un café pour rencontrer Marine, 24 ans, née à Paris, elle a grandi à Vincennes. Elle travaille dans un centre d'appel et elle habite ici depuis 3 ans.
Ça ne s'est pas fait en un jour, ça s'est fait en plusieurs étapes en fait. La première étape, ça a été le 9 janvier 2015, tout à fait 5 ans. Il y a eu évidemment les attentats de Charlie Hebdo, donc le 7 janvier, puis le 8 janvier. Et le 9 janvier, ça m'a touchée tout particulièrement parce que c'était à Vincennes, c'était dans un magasin que je fréquentais.
L'hypercacher.
L'hypercacher, exactement. Et il y avait parmi les victimes une personne que je connaissais. Ça m'a énormément touchée parce que ça aurait... Déjà, il a le même prénom que mon frère. Et ça aurait pu être mon frère, en fait, ou ça aurait même pu être moi. Voilà. Donc je pense que ce jour-là, quand j'ai reçu une notification sur mon téléphone me disant qu'il y avait une attaque, ma vie a changé totalement. Je suis passée de la petite française, tout à fait française, vraiment, je parle français, j'ai étudié en France, j'ai été dans un collège-lycée catholique, enfin voilà, c'est vraiment, j'étais la française. Je suis passée de la française à la juive qu'il faut cacher. Alors à ce moment-là, j'étais à l'université aussi. Et quand je suis revenue après ces attentats, ça a été juste une escalade de moqueries, de harcèlement moral, parce que j'étais juive. Ils ont dit mon nom de famille, qui est un nom de famille assez à connotation assez juive. Et toi, t'es juive, t'es sioniste. Et c'était un mec, un blanc, quoi, je veux dire, un bon français, catho, enfin... personne lambda qu'on voit dans la rue. Et c'était un fervent défenseur de Alain Soral, extrême droite et extrême con. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Donc ça a été le premier antisémitisme auquel j'ai été exposée à la fac. Puis après, quelques semaines après, j'ai reçu un message d'un mec qui me dit « Toi, il paraît que tu défends Israël, ça va pas le faire. » Le jour de mon anniversaire, le jour de mes 18 ans. Et ça a été toutes les communautés, hein, je ne veux pas pointer une communauté ou une autre, quand même majoritairement la communauté, disons, extrême droite et musulmane, qui m'a dit, toi la sioniste, une fois une fille m'a dit, toi si t'es sioniste, je te brûlerai. Voilà. Je voudrais te brûler de mes propres mains, quoi, de jeter un bidon d'essence et t'enflammer en fait. Voilà. Donc ça a été violent comme ça. On m'a jamais frappé, on n'a jamais levé la main sur moi, mais les propos ont été tellement violents, et encore plus après les attentats de l'hypercacher, j'ai entendu des propos comme « ils ont bien fait, quoi. Ils ont bien fait de vous tuer, vous méritez d'être tués. Vous êtes des sionistes, vous tuez des enfants en Palestine. Enfin, mais quel rapport avec moi? Je suis née à Paris, j'ai vécu toute ma vie à Paris, mes parents payent des impôts en France depuis 1980. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Je ne suis pas venue en Israël dans un esprit sioniste, tous les juifs doivent rentrer en Israël, etc. C'était pas ça l'histoire au départ, c'est vraiment que je me sentais vraiment plus en sécurité à Paris et que j'avais besoin de changement. Et je voulais que mes enfants n'aient jamais à se sentir en insécurité d'être juif. Donc c'était pas vraiment par sionisme au départ. Alors religieux oui, parce que j'ai toujours voulu construire un foyer juif et avoir des enfants qui auraient été élevés dans cette tradition, parce que j'aime cette tradition véritablement. Après je suis pas plus religieuse que ça, je suis très croyante, mais je vais pas à la synagogue toutes les semaines quoi.
Vous arrivez en Israël, vivre en Israël, même quand on est juive, c'est pas une évidence.
Ah bien sûr que non. Bien sûr que non, c'est très dur parce que déjà l'hébreu c'est une langue qui est très difficile. Et ouais, tout est difficile ici, le système de santé est différent. Et puis même le fait d'être française en Israël, on est aussi stigmatisé.
Ah bon?
Ouais, bah oui, clairement, ouais, les Français c'est les riches qui arrivent, et... véritablement. Mais bon, c'est peut-être un peu poétique, mais je crois vraiment au destin. Et je pense que si je suis là aujourd'hui, c'est pas par hasard. Voilà, je pense que j'ai fait mon temps en France, même si c'était que 21 ans.
Vous parlez de sécurité, il y a quelque chose de contre-intuitif, parce que ici il y a un conflit avec les Palestiniens, il y a l'Iran qui n'est pas loin. On n'a pas forcément l'impression que c'est un pays très sûr, entre guillemets.
Alors effectivement, on pourrait se dire que la France était un peu plus sécurisée. Et puis après, je me suis rendu compte quand même que c'était un pays où on vit dans l'urgence. Tout autour de nous, même là, on est dans un café, tout autour de nous, ces personnes ont fait l'armée. Certaines d'entre elles sont armées. Et c'est ça, en fait. En France, en 2015, je veux dire, autour de nous, personne n'était armé. Un terroriste qui arrive et qui décide de tuer tout le monde, bah, on a bien vu ce qui s'est passé. On a bien vu ce qui s'est passé au Bataclan, on a bien vu ce qui s'est passé à l'Hypercacher, on a bien vu ce qui s'est passé chez Charlie Hebdo, pour cette pauvre policière qui est décédée aussi. Il n'y avait pas de sécurité. Ici, en Israël, n'importe où on va, on est fouillé, on passe par des détecteurs de métaux. Dans la rue, s'il nous arrive quelque chose, il y a 10 personnes qui viennent pour voir comment ça se passe. C'est une société qui vit dans l'urgence et qui est prête à réagir. Alors qu'en France, je trouve quand même que, même encore aujourd'hui, hein, en 2020, on ne réagit pas, quoi. Il se passe des trucs et puis le lendemain, bon, bah, c'était un dégénéré et puis ça ira mieux demain. Et non, ça ira pas mieux demain.
On a quand même l'impression que ce sentiment d'insécurité ou d'urgence, il est constitutif de l'identité israélienne.
Effectivement. Et au final, aujourd'hui, moi, je me pose la question. J'espère qu'un jour, on pourra avoir une solution à deux États. Mais il y a quand même cette question existentielle qui fait qu'Israël a été bâti sur une société d'urgence, une société qui est en guerre, une société qui sait que demain, elle peut mourir. Est-ce que Israël survivra à la paix? Et est-ce que les pays alentours survivront aussi à la paix avec Israël? C'est une question qui va dans les deux sens.
Ça veut dire qu'entre un pays qui est bâti sur liberté, égalité, fraternité, et un pays qui est quand même bâti sur la guerre, comme vous venez de le dire, aujourd'hui, vous vous sentez mieux dans le pays bâti sur la guerre?
Eh ben oui. Ben oui, aujourd'hui, quand il se passe quelque chose, on réagit. En France, justement, égalité, fraternité, tout ce que vous voulez, c'est évidemment que c'est magnifique. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut que ça évolue. 1789, c'était il y a 300 ans.
Ce départ de France, c'est irréversible?
C'est très difficile, c'est très compliqué comme question. Je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas un jour sans que je me demande si j'ai fait un bon choix. En vérité, même si j'avais que 21 ans, quand on a été éduqué, élevé à la française toute sa vie, de changer de pays d'un coup, c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire, c'est tous les jours un combat. Un combat parce que ça nous manque, un combat parce que on est très différent de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et je pense, je sais pas, je ne pense pas pouvoir revivre en France, non. Je pense pas, mais je me pose souvent la question. Et puis après, je me dis, mais en fait, ce que j'ai vécu en France, je veux plus jamais le vivre dans ma vie. Donc non, je ne reviendrai pas en France. Voilà. Même si la France me manque.
Lucien, Uri, Bernard et Marine, quatre Français juifs qui ont choisi de vivre en Israël. On vous retrouve en direct de Jérusalem, Frédéric Mettezo. Marine, que l'on vient d'entendre, vous a raconté les agressions verbales dont elle a été victime. Il y a un lien de cause à effet très net entre les actes antisémites en France et les départs de Français vers Israël?
En tout cas, c'est très clair depuis une vingtaine d'années, hein. Les chiffres du ministère français de l'Intérieur et de l'agence juive en Israël se suivent. Quand l'antisémitisme augmente en France, eh bien, les départs vers Israël augmentent l'année suivante. Ça a été le cas dans les années 2002-2005 pendant la seconde intifada où le nombre de départs a doublé. Puis de 2012 à 2016 avec les attentats de l'école Ozar HaTorah à Toulouse et de l'Hypercacher à Paris. Là, les départs de la France vers Israël ont triplé.
Et justement, vous avez interrogé nos quatre témoins sur la situation des Juifs en France. On retrouve d'abord Marine à Tel Aviv.
Ça a été une grosse claque pour moi parce que j'ai toujours vécu dans un cocon. Et je pense qu'aujourd'hui, en France, on ne communique plus. Je parle des Juifs en France, mais je pourrais exactement dire la même chose pour les musulmans de France, que pour la communauté noire de France, pour la communauté chinoise en France. En fait, aujourd'hui, il y a un communautarisme tellement exacerbé en France et dans le monde en général, hein, parce qu'en Israël, c'est la même histoire, que voilà, les gens ne se parlent pas et ne se connaissent pas. Au-delà du fait des religions, il y a aussi voilà, un problème économique qui est certain et qui divise la société et qui fait que voilà, on dit ouais les juifs sont riches, les juifs. Alors moi j'en ai beaucoup beaucoup souffert de ça parce que je viens d'une banlieue cossue quoi, donc je suis vraiment ce que les gens s'imaginent.
Comment vous jugez la situation des Français juifs aujourd'hui ?
Il y a eu l'histoire de Sarah Halimi. On peut pas oublier cette histoire et ça me rend folle quoi. Je comprends pas. Je pense que les Juifs en France, de toute façon, sentent cette insécurité. Alors sans doute qu'il y en a qui se voilent un peu la face, mais aussi parce que bah, c'est dur de changer de pays, c'est pas donné à tout le monde. Donc je vais pas leur jeter la pierre à ces personnes-là, mais je le sais au plus profond de moi, parce que je l'ai ressenti, qu'il y en a beaucoup qui ne se sentent pas en sécurité en France. Je le sais. Et même pas forcément juifs, hein. On n'est pas en sécurité en général. Parce que le Bataclan, c'était pas des juifs, hein. C'était la jeunesse qui était visée.
בסוף השבוע ריססו אלמונים צלבי קרס על תיבות דואר הנושאות את תמונתה של סימון ויי.
Les médias
israéliens rendent compte régulièrement des actes antisémites en France. Des journalistes du monde entier sont aussi venus ici pour rencontrer des familles françaises. Mais Bernard Zanzouri, le colon de 56 ans, Uri Weber, l'habitant du kibbutz de 71 ans, Lucien Lazare, le résident de Jérusalem de 95 ans, nos trois témoins les plus anciens ont un regard plus nuancé sur l'antisémitisme comme motivation à partir en Israël.
Je pense que c'est des gens qui n'ont jamais pensé que la place du juif était en France, les gens qui disent ça comme ça. C'est des gens qui ont toujours pensé que s'il y a un État d'Israël, la place du juif est dans l'État d'Israël. Et donc, à partir de là, ils attendent les événements en disant « Ah, voilà, ah tiens, mais voilà l'hypercacher et voilà le truc, ça prouve bien ce que je pensais déjà en vrai. » Donc moi, je trouve quelque part, tu as le droit de penser ça, que tous les juifs devraient vivre en Israël. Mais le juif qui ne veut pas comprendre, il ne veut pas comprendre. Il a choisi la France, il veut vivre en France. Tu ne peux rien faire et tu ne peux rien dire par rapport à ça. C'est un choix personnel, ce n'est pas un choix collectif. Et même si tu penses qu'en faisant ça, il ne réalise pas la parole divine, etc., c'est son choix personnel, tu n'as pas à rentrer dedans. Mais espérer quelque part presque que ça va devenir encore plus mal pour pouvoir réaliser ce rêve, je pense qu'il y a quelque chose de malsain dans cette approche.
Et est-ce que la France est devenue plus dure aujourd'hui pour les juifs qu'il y a 20, 30 ou 40 ans ?
Je pense que oui, quelque part. Mais je pense surtout que moi, quand j'ai étudié, j'étais jeune, on sortait depuis 20, 30 ans de la guerre. Et tout le monde était très, très écrasé par le poids de la Seconde Guerre. Quand même, tu aurais eu un avis antisémite, etc., on voulait plus l'entendre. Je suis pas sûr que quelque chose ait vraiment changé fondamentalement. Par contre, je pense que les langues arrivent à se délier. Et que les types se disent, bon, allez, 60, 70 ans sont passés, ça y est, on peut se lâcher un peu et ressortir les trucs qu'on pensait. Et quelque part, on va presque trouver les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. Est-ce qu'à l'époque d'affaire Dreyfus, c'était moins grave qu'aujourd'hui ce qui se passait dans la rue française ? Je suis pas sûr.
C'est le nouvel antisémitisme, ce qu'on appelle le nouvel antisémitisme. C'est camouflé derrière l'anti-Israël. C'est soi-disant, Israël donne un prétexte pour pouvoir être antisémite et être du bon côté.
Est-ce que c'est une motivation suffisante pour venir en Israël ?
Ceux qui viennent uniquement parce qu'ils redoutent l'antisémitisme, c'est pas assez.
soit ils en souffrent réellement, alors là, ils savent qu'ils n'ont pas le choix, ils viennent en Israël. Mais si tu viens uniquement par fuite, alors tu découvres ici tous les mauvais côtés de la société israélienne, et il y en a beaucoup. Et ensuite, donc, tu commences à faire marche arrière. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir cette optique positive, cette envie de créer une société, quelque chose qui est à toi, dans laquelle tu veux vivre et dans laquelle tu veux réaliser tes rêves et tes espoirs.
C'est une motivation compréhensible qui réagit à une situation dramatique. Mais cette situation dramatique, elle est faite d'incidents qui ne sont pas du tout constants. L'antisémitisme, vu d'ici, en Israël, qui se manifeste en France, est caricaturé par un regard qui est fait de souvenirs qui ne décrivent pas la réalité des choses. L'antisémitisme était considéré, quand j'étais un gamin, comme étant une opinion légitime. Aujourd'hui, c'est un délit. C'est une révolution, c'est une métamorphose. La France n'est pas suspecte d'avoir la volonté de revenir à une situation qui était celle antérieure à la Deuxième Guerre mondiale.
La France, non, mais il y a eu l'attentat de l'école de Toulouse, l'attentat de l'hyper-cacher, des attentats commis par des terroristes djihadistes. Et parfois, des jeunes disent « je ne peux plus porter ma kippa tranquillement dans le métro et dans le RER ».
Oui. Vous avez bien fait de signaler le caractère de certaines de ces violences antisémites commises par des djihadistes, parce que le monde islamique n'est pas étranger à ces drames, à ces tragédies même, mais ce qui s'est produit entre la synagogue et l'église après la Deuxième Guerre mondiale et qui a été en quelque sorte une métamorphose de l'église, eh bien, ça, un jour, ça se produira aussi avec l'islam. Je pense que l'avenir n'est pas aux djihadistes, l'avenir est à une réconciliation entre l'islam et le judaïsme.
La France, Israël et moi, un reportage de Frédéric Mettezo avec Annie Brault à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Invité de grand reportage, le journaliste Charles Anderlin, ancien correspondant de France 2 au Proche-Orient. Alors, Lucien Lazare, qui vient de parler, le témoin le plus âgé, a rejoint Israël pour son projet social et humanitaire. Marine, elle, la plus jeune, ne se sentait plus en sécurité en France. Est-ce que ces deux témoignages sont représentatifs à vos yeux, Charles Anderlin ? Est-ce qu'il y a une fracture générationnelle ?
Écoutez, un peu, des personnages très différents arrivent en Israël. Et ils arrivent dans un Israël qui n'est plus du tout celui dans lequel Lucien Lazare est arrivé, et dans lequel moi personnellement également, je suis arrivé en décembre 68. Je suis arrivé avec l'idée d'être israélien, démocrate et juif au plan culturel. Et je me retrouve aujourd'hui dans un environnement qui est majoritairement juif, plutôt religieux, parfois presque messianique, illibéral, et le terme d'israélien est devenu juste le nom qu'il y a sur un passeport. Donc c'est une identité totalement différente, le pays s'est profondément transformé au cours des 30-40 dernières années, plus rapidement peut-être au cours des 10 dernières années. Maintenant, il faut savoir que les immigrants qui arrivent aujourd'hui en Israël, ils arrivent dans un pays qui, en juillet 2018, a voté une loi redéfinissant l'État comme étant l'État-nation du peuple juif et qui discrimine les non-juifs. Cela dans une autre situation, une situation d'occupation des territoires palestiniens, où les choses ne sont pas tranchées. À l'heure actuelle, tous les experts sont à peu près d'accord avec moi. Avec 450 000 Israéliens habitant la Cisjordanie, la création d'un État palestinien indépendant est quasi impossible. Donc certains craignent effectivement, à brève échéance, la transformation d'Israël en un pays avec apartheid, discriminant non seulement ses citoyens non-juifs, arabes, druzes, circassiens, mais également, bien entendu, le problème palestinien qui n'est pas là. Cela veut dire que les immigrants qui viennent, que ce soit pour leur sécurité ou pour d'autres raisons, se retrouvent dans un pays qui ne sera pas en paix dans l'avenir prévisible. La paix avec les Palestiniens, ça n'arrive pas.
Vous ne croyez pas au rêve de Lucien Lazare ?
La campagne électorale qui se déroule en ce moment même en Israël, en prévue du scrutin du 2 mars, le Likoud, la droite, les religieux et même le centre droit parlent tout simplement d'annexer les territoires, une partie des territoires palestiniens. Donc une crise majeure pointe à l'horizon. Et il faut surtout, je crois, réaliser cela lorsque l'on veut s'installer en Israël.
Alors il y a d'ailleurs parfois des désillusions de la part de Français qui sont arrivés en Israël, au point donc que certains vont faire demi-tour. Frédéric Mettezo, on a des chiffres sur les retours en France ?
Oui, alors les retours, c'est ce qu'on appelle la yérida, c'est-à-dire la descente d'Israël. C'est des chiffres qui sont quand même assez tabous en Israël. Les autorités israéliennes n'aiment pas dire, n'aiment pas reconnaître qu'il y a des juifs venus d'ailleurs qui se sentent mal en Israël. Mais bon, j'ai réussi auprès de diverses organisations à faire des recoupements. Alors les Français qui repartent d'Israël, ils sont à peu près 10%. Ça, c'est une moyenne, mais ça monte à 30% à partir du moment où les gens, vous savez, n'ont pas pris le temps de préparer leur émigration, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris au moins 3 ans pour préparer. Venir vivre en Israël quand on vient de France, c'est pas simple.
Merci Frédéric Mettezo. Alors, les Français d'Israël, Charles Anderlin, ils votent majoritairement à droite aujourd'hui. C'est une adhésion de fond ou est-ce qu'ils pensent qu'il faut une stabilité politique pour assurer la sécurité, voire la survie d'Israël ?
Je ne sais pas si la droite israélienne apporte la stabilité. On évolue vers des crises. La situation est loin d'être satisfaisante. L'Iran se retrouve à proximité d'Israël en territoire syrien, en territoire irakien. L'armée, les responsables nous parlent régulièrement de risques de guerre. Maintenant, vous savez, les immigrants de France, personne ne les attend vraiment en Israël. Il faut parler l'hébreu, il faut déjà avoir un travail, et puis surtout lorsqu'on en arrive avec une profession, il faut des équivalences. Alors, avoir une équivalence quand on est médecin français, il faut apprendre à faire les ordonnances en hébreu, il faut apprendre toutes les lois israéliennes concernant la médecine. C'est la même chose pour les autres professions libérales, les avocats. Mais déjà, ça fait une trentaine d'années que dans mes voyages entre Paris et Tel Aviv ou Tel Aviv-Paris, je rencontre des gens qui faisaient ce qu'on appelait l'immigration Boeing. C'est-à-dire, on laisse la famille en Israël, mais on garde l'emploi en France, le cabinet, le magasin, et on essaye de faire attention. Maintenant, je découvre régulièrement également dans ces voyages des gens, une dame qui me dit « j'ai amené mes enfants, comme en France, je les avais inscrits dans une école religieuse, je les ai inscrits dans une école religieuse à Tel Aviv », et puis elle découvre que dans cette école, on n'enseigne ni les mathématiques, ni l'anglais, ni l'histoire-géographie, mais seulement la Torah et le Talmud. Donc, qu'est-ce que ces gosses vont faire après ? C'est un peu gênant. Ou alors, je tombe là, il y a quelques jours, dans l'avion, j'ai un monsieur à côté de moi, j'ai pris ma retraite en Israël, me dit-il, écoutez, bravo, vous parlez l'hébreu, non pas un mot. Ah oui, et comment vous faites ? Vous regardez la télé, vous parlez l'anglais au moins ? Non, pas du tout. Alors très souvent, on découvre des véritables communautés franco-juives qui vivent dans des quartiers à Jérusalem, à Ashdod, Ashkelon, enfermés entre eux. C'est une forme assez curieuse de sionisme qui n'existait pas avant.
Alors, il y a du communautarisme en Israël, donc les Français...
Israël, c'est un pays de tribus. On est Ashkenaz, on est séfarade, on est aussi français. Et dans une interview qu'on vient d'entendre, les Français n'ont pas toujours très bonne réputation en Israël. Et moi qui parle l'hébreu couramment, quand je suis avec mon épouse qui parfois a un peu d'accent français, tout à coup le chauffeur se tourne et puis à une réflexion sur les Français, ça se passe mal.
Ils n'ont pas bonne réputation, pour quelle raison ?
C'est d'abord, c'est une méchanceté. On leur attribue la hausse du prix de l'immobilier, ce qui est pas toujours vrai. Et puis, cette espèce de sionisme de vacances. On est sioniste parce qu'on passe les vacances en Israël. Donc, à certaines périodes de l'année, les plages de Tel Aviv sont complètement francophones. Il y a eu d'ailleurs des émissions satiriques à la télé israélienne sur les Français en Israël, qui étaient en fait assez drôles et assez méchantes.
Alors, sur les motifs de départ, il y a l'antisémitisme, ou en tout cas la perception de l'antisémitisme. Uri Weber estime que la critique d'Israël est un prétexte, un camouflage qui masque mal un nouvel antisémitisme. Pour vous, antisionisme et antisémitisme, c'est la même chose ?
Écoutez, quand quelqu'un me traite sale antisioniste reste à Tel Aviv, je comprends qu'il veut dire sale juif. Maintenant, il faut quand même savoir, et ça c'est une partie de mon livre, l'antisionisme était essentiel dans le judaïsme français pratiquement jusqu'à la libération. Le sionisme a été vraiment accepté par les Israélites français, par le franco-judaïsme, en raison du rôle des organisations sionistes durant l'occupation, la Seconde Guerre mondiale. Et tout de suite après, le développement qui s'est fait, la création de l'État d'Israël, tout doucement cela s'est développé, mais les premiers départs d'immigrants sionistes vers Israël, c'était que parfois par année quelques dizaines à peine. Ça a commencé à démarrer après la guerre de Six Jours, qui est le grand événement pour le judaïsme français vis-à-vis d'Israël et du sionisme. Avant 67, des grandes personnalités, des grands intellectuels juifs disaient il ne faut pas, on peut critiquer Israël. Il y en a même un rabbin, philosophe, avait déclaré dans les années 60, si Israël est injuste, il faut le détruire. Arrive la guerre de Six Jours, il est dans un message messianique et il décide, il annonce et il décide, il ne faut jamais critiquer Israël, c'est interdit. À partir de ce moment-là, il y a un ostracisme. Maintenant, la critique d'Israël, écoutez, évidemment, il faut pouvoir critiquer le gouvernement israélien et je pense que toute cette polémique et cette politique destinée à brider la critique du gouvernement israélien, cela vient effectivement de la volonté de cacher l'occupation et ce qui se passe, qui d'ailleurs est de moins en moins couverte dans les médias français.
Et donc dans votre livre qui parle des Juifs de France, vous dites qu'il y a donc une droitisation des Juifs de France au fil des années. Qu'est-ce qui a entraîné cette évolution ?
D'abord, on n'a pas de sondage. On n'a pas de statistiques, elles sont interdites en France. En l'occurrence, j'évoque essentiellement les grandes voix que l'on entend, c'est-à-dire celles des organisations juives, le CRIF, le Consistoire, qui effectivement s'expriment. Cela dit, il y a, on ne les connaît pas, on sait qu'ils fréquentent parfois les communautés réformées, qui ne sont pas du tout orthodoxes et pas du tout nationalistes religieuses en France, surtout à Paris. Mais parmi au Sénat, dans l'administration, dans l'armée, il y a de nombreux juifs que l'historien Birnbaum appelle les juifs d'État, qui sont là pour construire la République, pour participer au développement. Et la communauté juive est en train, à mon avis, de se couper de cette histoire du franco-judaïsme qui a fait la République d'aujourd'hui. Aux côtés de Gambetta en 70, il y avait Crémieux, un juif. Gambetta lui-même, originaire d'une famille génoise, un immigré. C'est une vraie histoire. Et cette histoire-là, aujourd'hui, je crains qu'elle ne soit en train de prendre une drôle de tournure.
Charles Anderlin, votre livre est dédié à vos grands-parents, amoureux de la France, qui les a, écrivez-vous, accueillis et protégés. Est-ce qu'elle protège encore les Juifs aujourd'hui ?
Écoutez, je crois que oui. Il y a des lois qui sont les plus strictes de l'Europe, Même aux États-Unis, encore maintenant, le Sénat commence à légiférer sur des, et la Chambre des représentants sur des lois. Aujourd'hui, les Juifs sont protégés. Il y a de l'antisémitisme. Il y en a toujours eu. Avec des pics, avec des hauts, avec des bas. Aujourd'hui, il y a le problème du djihadisme, qui ne concerne pas seulement les Juifs. De très nombreux musulmans ont également été tués. La Syrie, le Daesh, ça a été un massacre avant tout de musulmans. En France, bah oui, les Juifs sont menacés comme les autres.
Merci beaucoup Charles Anderlin. Je rappelle le titre de votre tout dernier livre, Les Juifs de France entre République et Sionisme, aux éditions du Seuil. La France, Israël et moi, le grand reportage de cette semaine était signé Frédéric Mettezo. Réalisation Annie Bro avec Jacques Azubert à la technique. Merci beaucoup à l'équipe de la documentation d'actualité. Et vous pouvez réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur franceculture.fr.